Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen.
Les amis, on se retrouve dans Vice. Je ne suis toujours pas Jean Massier, qu'on embrasse très très fort. Jean Massier a délégué l'animation à Malek délégué. On va la refaire cette vanne, elle est incroyable.
Toute la soirée.
Toute la soirée, ça s'appelle un running gag. Merci à vous d'être là, merci le chat, merci à vous le public. Merci d'être là. Vous pouvez, hein, d'ailleurs, il y a le lien qui sera disponible dans le chat. Vous pouvez prendre vos places pour venir nous voir dans le public. On est toujours très ravis de vous accueillir. En plus, on prend un petit pot après, tous ensemble, on discute. C'est très, très cool. J'espère que vous avez aimé ce Before avec le Parlement européen. C'était cool de parler du Parlement européen. Je suis toujours en compagnie de Claire, le jeune à ma droite. Claire, comment ça va?
Bah, toujours aussi bien. On est bien de ce côté-ci aussi.
Ouais.
Voilà.
Claire, qu'est-ce que tu nous racontes en ce moment?
L'éternelle thèse, hein.
C'est mon running gag préféré.
Ça ne se termine jamais. Non, ça va. On fait des choses intéressantes dans mon labo de recherche et on va en faire notamment autour des élections européennes, avec notamment une conférence sur le Green New Deal. On va interroger un petit peu toutes ces dynamiques-là. Donc non, globalement, ça va bien, en forme.
Ok. On parle de thèse. Je me tourne vers Antoine. Comment va Antoine?
Ça va très bien. Moi, je l'ai rendu. Ah. Ça va encore mieux.
Donc, c'est possible.
Soutenance bientôt.
Je commençais à perdre espoir que...
La soutenance, c'est bientôt?
Oui, soutenance le 8 mars.
Ok. Comment tu te sens là?
Déjà, j'aurais les... Parce qu'en fait, pour vous dire comment ça se passe...
Explique-moi. Je rappelle que moi, je n'ai pas mon bac. Je n'ai jamais fait d'études supérieures. Il faut que tu m'expliques.
Tu rends ta thèse 2 mois avant ta soutenance.
Ok.
Et du coup, 1 mois avant la soutenance, tu as les pré-rapports du jury. C'est-à-dire, tu as les membres du jury qui vont te dire à quel point c'est pas bien ce que tu as fait, globalement. Et en fonction de ça, tu es autorisé à soutenir.
Ok.
Donc ça, moi, je devrais avoir ces rapports du jury dans les prochains jours.
Ok.
Et normalement, si tout se passe bien, soutenance, du coup, dans 1 mois, le 8 mars.
Ok. Bon, ouais. Merde, comme on dit dans le jargon. Sacha, comment ça va? Sacha Beckerman est avec nous.
Écoute, je suis entourée de 2 thésards, donc je me sens tout de suite un peu moins bien.
On est ensemble, on est ensemble.
Moi, le truc le plus long que j'ai écrit, c'est un papier de 12 000 signes, je pense. Mais voilà, non, ça va.
Ça raconte quoi en ce moment, Sacha?
Écoute,
à part nos discussions sur le foot.
Sur l'OM. Écoute, je travaille en ce moment sur un dossier sur les sportifs ultramarins.
Ok.
Sportifs et sportifs de niveau ultramarin, victimes encore de racisme. En métropole. Donc, j'ai récolté des petits témoignages assez intéressants et j'espère que je publierai ça très rapidement sur le site de France Info. Et puis voilà, c'est à peu près tout. D'autres dossiers à droite et à gauche avec en ligne de mire les Jeux.
Ok, bon, je suis ravi d'être avec vous, les copains. J'essaie d'animer cette émission. C'est un exercice un peu sympa.
Tu le fais parfaitement.
Merci beaucoup.
Comme un chef.
Merci beaucoup. On va parler, les amis, du financement. C'est là où je dégaine ma carte du club Baxit. Les amis, on avait déjà fait un live débrief avec certains des membres du club Baxit. On avait fait ce petit call très très sympathique. Je sais qu'il n'y en a pas eu, mais il arrive, d'accord? On vous le promet. Je rappelle que les donateurs de 10 euros ou plus seulement y ont accès. Donc voilà, donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours rejoindre le club Baxit. Les copains du chat vont mettre le lien tout de suite. Abonnez-vous. 1, 2, 3. Abonnez-vous. On est si bien ensemble, comme dirait l'autre. Et puis, si vous regardez la rediffusion de cette émission sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like, à laisser un commentaire, à nous dire ce que vous pensez de cette émission. C'est aussi une manière de nous soutenir, de soutenir cette émission. Nous, on vous lit. Moi, des fois, je réponds aux commentaires. Et voilà. Et on fait une très grosse bise à notre ami Jean Massier, à qui on pense très fort. Les amis, on va passer à l'actu de la semaine. Et pour ça, on a un magnifique jingle. Les amis, on va parler de l'extrême droite. On va parler de l'extrême droite en Europe, en Allemagne, et puis ensuite on va essayer d'élargir un petit peu. Alors, on a essayé de noter un petit peu. Tout ce qui s'est passé, d'accord. Je vais essayer de faire un petit retour dans l'ordre chronologique. Là, c'est mon petit côté. Faites entrer l'accusé, d'accord. Ouais. Alors, mi-janvier, on a un média d'investigation Corrective qui a révélé la tenue d'une réunion secrète qui réunit des membres influents de l'AFD, qui sont les alliés du RN en Allemagne, des entrepreneurs qui financent à la fois ces rencontres et des campagnes de l'AFD autour de 1, 2, 3, de matin. Oh, ouh. De Martin Selner, pardon, une figure...
Oublie pas de respirer, surtout, c'est important.
J'essaye. Qui est une figure identitaire en Autriche. Ok, on apprend donc cette rencontre, cette réunion secrète. On apprend ensuite qu'un plan a été discuté lors de ces rencontres-là, un plan contre l'Allemagne, qui prévoit la remigration d'environ 4 millions de personnes, des étrangers, mais aussi des nationaux allemands, qui, selon eux, ne sont pas assimilés. La révélation de cette réunion en Allemagne a suscité l'indignation et des manifestations ont été organisées dans tout le pays, avec à la mi-janvier 1,4 million de personnes qui ont manifesté dans les grandes villes allemandes, dans les rues. Les manifestations se poursuivent encore aujourd'hui. Il y a plus de 200 rassemblements qui se sont tenus le week-end dernier dans les grandes villes allemandes. L'AfD, le parti dont on parlait, allié du RN en Allemagne, avait obtenu un peu plus de 10% aux dernières élections fédérales en septembre 2021. Ses scores dans les sondages n'avaient cessé d'augmenter et avaient même atteint 22% en janvier dernier. Et depuis, la révélation de cette réunion et les manifestations, ça n'arrête pas de dégringoler. Hein. Ils sont passés en dessous des 20% pour la première fois depuis juillet 2023. Je vous pose la question, vous me dites qui veut répondre. Est-ce qu'il y a une spécificité allemande là-dessus sur ce qui se passe, sur le fait que l'AfD dégringole après la révélation? Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose comme ça en France? Ah oui, je vous en ai posé une.
je pense que la spécificité quand même, c'est qu'il y a une histoire particulière avec l'extrême droite en Allemagne,
oui,
qui fait que c'est, historiquement, c'est pas un pays comme un autre par rapport à cette question-là, et c'est ce qui expliquait le fait que pendant extrêmement longtemps, il n'y avait pas de parti d'extrême droite en Allemagne. Et c'était la grande nouveauté, c'est d'avoir eu la création de l'AfD et surtout d'avoir eu les succès électoraux que l'AfD a connus. Mmh. Et comme tu le rappelais, d'avoir eu des projections en termes d'intention de vote extrêmement importantes. Parce que moi aussi, j'ai fait mes devoirs et quand je regardais les intentions de vote pour les élections européennes, on voyait que l'AfD, du coup, le parti d'extrême droite, était à 23% d'intention de vote, et juste derrière la CDU, donc le parti de centre-droit classique, historique allemand, qui était à 28%, et bien devant les Verts, troisième force, à 13%. Donc le fait d'avoir une extrême droite aussi importante en Allemagne, avec toute la spécificité historique qu'il y a, ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Parce que finalement, c'était quand même le dernier pays où on aurait pu penser qu'il allait avoir un parti d'extrême droite aussi fort électoralement.
Ouais, mais...
Et Claire, toi, tu as participé à un colloque sur le sujet avec l'Institut de la Boétie. On a vu des membres du gouvernement, des partis du gouvernement participer à ces manifestations. On a même vu le chancelier participer à une de ces manifestations. Est-ce que ça suffit en réalité d'organiser des manifestations comme ça, géantes, comme en Allemagne?
Je pense que aussi la spécificité allemande par rapport à la tendance des extrêmes droites européennes, c'est qu'il y a partout cette tendance des partis d'extrême droite à s'adoucir, à arrondir les angles, à mettre des cravates, à avoir des bonnes manières,
aussi,
à s'institutionnaliser.
Et
typiquement, Mélanie, et la prise de pouvoir par Mélanie est le résultat de ce polissage de l'extrême droite. Et ça, particulièrement en Allemagne, du fait de leur histoire, ils sont obligés de le faire encore plus. Et là, ce qui s'est passé avec la révélation d'un plan pour la remigration, non seulement des personnes étrangères, mais de personnes allemandes, ça a fait ce détonateur de « ah oui ». On se rappelle, c'est ça l'extrême droite. Elle peut mettre toutes les cravates qu'elle veut. En fait, le vrai visage de l'extrême droite, c'est cette haine raciste qui, en fait, est pas du tout déterminée par des questions de droit, de si on a les papiers ou pas, qui sont déterminées par une vision raciale, raciste du monde. Et donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, effectivement, il y a des cordes de rappel qui sont peut-être plus fortes en Allemagne c'était même massif dans les régions où l'AfD était extrêmement forte, dans des patelins il y a eu des manifestations. Donc après, est-ce que ça suffit? Je pense pas. Je pense qu'il y a aussi, c'est un mouvement plus général qui se passe en Allemagne pour essayer de répondre de manière plus forte à ça, mais je pense qu'il y a plein de leviers en fait. Et effectivement, nous on avait organisé un colloque avec l'Institut de la Boétie là-dessus, parce que le levier intellectuel, le fait de justement arriver à bien identifier par-delà les masques que l'extrême droite institutionnalisée peut se mettre, bien se rappeler que derrière ça, y a les milices à Lyon qui font des ratonnades, derrière ça, il y a cette vision du monde qui restera et demeurera raciste et en dehors de l'arc républicain, quoi qu'elle fasse, c'est important d'avoir aussi des historiens qui nous rappellent justement l'histoire très particulière de l'extrême droite, qui du coup, il faut bien distinguer de quand on parle d'extrême gauche gauche et d'extrême droite. On ne peut pas juste faire des équivalences, rappeler tout ça. Et effectivement, essayer de penser la période présente où là, on parlait des élections européennes. On a quand même un risque massif. Oui, ça va être un moment démocratique, mais où on a quand même un risque que l'extrême droite ressorte la grande gagnante des prochaines élections. Et ce n'est pas du tout neutre. Ce n'est pas une alternance de pouvoir comme une autre. Et donc, oui, il y a besoin d'un énorme chantier intellectuel et militant et pratique dans les manifestations. Enfin, c'est un truc de réveil citoyen aussi qui se joue là. Donc, non, je dirais que les manifs ne suffisent pas, mais elles sont absolument essentielles. Enfin...
D'un autre côté, tu demandais si on verrait la même chose en France. Oui. Je suis pas sûre qu'en France, on se serait manifesté aussi massivement et aussi longtemps sur la durée face à de telles révélations pour le coup. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est un peu moins honteux que les Allemands par rapport à notre passé pour le coup et qu'on a souvent tendance à penser que Vichy, ça a été une erreur de route, une sortie de route et que on a voulu aussi parler. Enfin, on a un peu mis sous le tapis ça pendant des années. Après la sortie de la guerre et je pense que ça nous pique un peu moins nous pour le coup de se rappeler que la France a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale.
Juste, quoi. Si je peux rajouter là-dessus, pas plus tard que hier, il y a une élue parisienne, donc Fatoumata Koné, qui est avec le groupe Vert à Paris. Il y a l'ex-candidate du RN pour la mairie de Paris qui a eu une prise de parole en disant « c'est évident qu'il faut la remigration, la tienne comprise ». En s'adressant à l'élue parisienne. Donc,
c'est bien, il se cache plus, hein.
Et non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, cette bascule, elle est déjà là, en fait. Et il y a pas, bon, il y a eu des mouvements de soutien sur les réseaux, etc. Mais en fait, on n'a pas un problème moins grand que l'Allemagne, et on n'a pas de réaction d'ampleur. On a plutôt une continuation de cette espèce de truc de on est c'est quoi l'expression, la grenouille dans l'eau bouillante là. Et du coup on attend, ça chauffe et puis ça va nous tomber dessus et on n'aura pas eu ce sursaut là.
Mais il y a une accoutumance aussi en France, c'est parce que en 2002 c'était un choc de voir Jean-Marie Le Pen au second tour. Là maintenant l'extrême droite forte, voire Marine Le Pen qui arrive maintenant même dans les sondages récents a gagné la présidentielle quand elle est testée face à Gabriel Attal dans une potentielle présidentielle, ça choque plus personne. Il y a une vraie accoutumance à ce que l'extrême droite soit aussi puissante, et ce qui c'est lié aussi de manière extrêmement importante à l'environnement médiatique dans lequel on vit, qui met les idées d'extrême droite sur le devant de la scène et qui s'en cache absolument pas, et aussi à la présence d'autres candidats qui sont encore plus à l'extrême droite que l'extrême droite, et avec Éric Zemmour qui était là lors de la précédente présidentielle, qui a vraiment repoussé les limites de ce qui était dissible dans le champ politique. Donc c'est ça aussi qui fait, c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on s'habitue de plus en plus à cette situation qui est pourtant tout sauf normale.
Sondage, tu l'as dit, qui donne Marine Le Pen devant Gabriel Attal, dans ce cas de figure, qu'il la donne aussi devant, dans le cas de figure avec Édouard Philippe. Également devant dans le cas de figure avec Jean-Luc Mélenchon au second tour. Antoine, justement, toi, sur les questions de diabolisation, dédiabolisation, vous avez sorti une note avec la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, parce que j'adore les chiffres.
Sans blague
quand je m'ennuie, je
fais sans toi, Antoine, je me fais chier.
Quand je m'ennuie, je fais des statistiques. Bref, en fait, il faut. Ce qui m'intéressait, c'est de regarder pourquoi les gens votaient pour le Rassemblement National. Et ce que l'on voit, c'est qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une proximité d'une partie de la population en termes de valeurs, c'est-à-dire les valeurs qui sont défendues par le Rassemblement National, ça parle à une partie de la population. On peut le regretter, mais néanmoins, c'est le cas. C'est-à-dire, il y a des inquiétudes sur les questions de l'immigration qui sont partagées par une partie de la population. Il y a des inquiétudes sur les questions du travail et le positionnement du Rassemblement National, qui est de dire on est contre les élites du haut et contre les parasites du bas, ça parle à une partie de la population. Mais il y a aussi toute la question de l'image. L'image, c'est-à-dire qu'on voit dans tous les baromètres qu'il y a une amélioration extrêmement nette de tous les traits d'image de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup moins peur qu'avant. C'est ce qu'on appelle la dédiabolisation. Et ce que j'ai essayé de regarder, c'est quels sont les effets électoraux de la dédiabolisation.
Est-ce que c'est la cause du succès ?
Oui, voilà, exactement. Est-ce que quand on a une meilleure image de Marine Le Pen, du coup, ça va entraîner un survote pour elle au moment de la présidentielle ? Et ça, on peut le voir lors de la précédente présidentielle, la présidentielle de 2022. Comment se sont comportées les personnes qui, au début de la campagne, diabolisaient Marine Le Pen et finalement, à la fin de la campagne, la dédiabolisaient ? Eh ben, ce que l'on voit assez clairement, et là je reprends mes petits chiffres, c'est que ceux qui ont dédiabolisé Marine Le Pen, ils ont voté pour elle à 65% au second tour de la présidentielle, alors qu'en 2017, ils avaient voté pour elle à 37%. Donc, il y a un effet de cette amélioration de l'image qui est extrêmement clair. Enfin, bon, ça se matérialise dans les urnes. Et donc, il faut vraiment s'inquiéter de voir cette amélioration des traits d'image. Et il faut aussi prendre vraiment le problème à bras-le-corps, puisqu'on voit que plus Marine Le Pen se rapproche de l'Élysée, plus les citoyens considèrent que c'est une possibilité qu'elle puisse gagner l'élection, bah, plus ils vont avoir tendance à voter pour elle. Mmh. Donc il y a un vrai risque,
un vrai risque à
ce niveau-là, et c'est vraiment un combat qui doit se faire sur les deux axes, à la fois sur... Voilà, les chiffres sont là.
Ah, ça c'est un graphique de ta note, je crois.
Exactement. Antoine. C'est joli, hein.
C'est bien foutu.
Belle couleur.
Alors explique-nous un petit peu, là, genre.
C'est ça, en gros, tu vois...
Près du micro, Antoine.
C'est toujours ce problème. C'est le second tour de la présidentielle de 2022.
Okay.
À gauche, t'as le résultat dans l'ensemble de la population, donc 59% pour Macron et 41% pour Le Pen. Mm-hmm. Deuxième groupe de graphes, c'est les fameux switchers, ceux qui ont dédiabolisé Marine Le Pen. Ils ont voté pour elle à 65% au moment du second tour. C'est ceux qui l'a diabolisé au début de la campagne et qui l'a dédiabolisé à la fin. Dans le troisième groupe, c'est ceux qui la diabolisaient toujours. Eux, ils ont voté pour elle seulement à 11%. Et ceux qui ne l'avaient jamais diabolisé, ils ont voté pour elle à 90%. Donc il y a bien un effet de l'image, il y a bien un effet de l'image sur le vote. Et c'est pour ça qu'il faut un petit peu se méfier aussi du commentaire journalistique qui est de dire « Ah bah oui, Marine Le Pen, elle est respectable, elle met une cravate, en plus elle a l'air sympathique, elle se prend en photo avec ses chats. » Derrière, ça a des effets électoraux quand même.
Elle reçoit Karine Le Marchand, c'est trop cool, c'est mignon. Le deuxième groupe de graphes, est-ce qu'on peut le remettre s'il vous plaît, la régie, je sais, je suis relou. Il est un peu inquiétant là,
c'est d'autant plus inquiétant que quand tu regardes les baromètres sur l'évolution de l'image du Rassemblement National, là que tu vois sur plein d'items, ils sont au-dessus de 50%.
Mmh. Ok. Mmh.
Donc, et c'est des chiffres qui n'ont jamais été aussi hauts. Donc c'est vraiment une... C'est assez inquiétant quand tu vois ça, et il faut prendre le problème à bras-le-corps parce que sinon on risque d'avoir une vraie belle gueule de bois en 2027.
Le switch, il s'est fait sur combien de temps?
C'était entre le début de la campagne, donc entre octobre 2021 et juste après l'élection.
Okay.
Et je pense que ce qu'il faut noter aussi, et là on parle vraiment de prendre les opinions au niveau individuel, mais je pense que c'est important de souligner qu'elles sont, prises dans un ensemble qui inclut les médias, qui inclut aussi un gouvernement qui a explicitement fait le choix de la dédiabolisation du RN et d'en faire justement un partenaire respectable en inversant presque le sens de l'arc républicain qui s'était construit historiquement, notamment en 2002, contre le RN, ex-FN, au moment où il y avait Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et maintenant... prenez par exemple la marche contre l'antisémitisme, il y a eu une inclusion du RN dans un nouvel arc républicain avec des guillemets du coup, et avec une mise à l'écart de cet arc de la gauche la plus radicale. Donc une inversion complète du sens premier de l'arc républicain qui participe mais amplement et totalement à cette dédiabolisation. Donc, c'est là où, en fait, quand on réfléchit à comment on lutte contre l'extrême droite, il y a le travail de conviction inter-individuelle, etc. Mais il y a surtout ne pas négliger la dimension structurelle et systémique du complexe médiatico-politique dans lequel les opinions se font, les représentations politiques se forgent, et toutes ces dimensions-là. Bon, ça rend le problème encore plus énorme. On a beaucoup, beaucoup de boulot.
Non, mais t'as complètement
raison. Et je suis contente qu'à Baxit, on puisse justement faire ce travail d'en parler à quasi chaque émission.
On n'est pas possédé par Bolloré encore.
C'est vrai.
Alors oui, je peux pas encore. Et puis demain, j'espère aussi. Hein, les amis, on reparlera de l'extrême droite en Europe et en France. Et puis peut-être de ce débat de comment éviter la fameuse gueule de bois en 2027. Petite partie qui n'était pas prévue dans notre conducteur. On a peut-être enfin un gouvernement complet, les amis. On ne sera jamais resté aussi longtemps sans un gouvernement complet. Gabriel Attal nous avait annoncé il y a maintenant 2-3 semaines 15 noms donc de ministres. On nous avait dit que ça allait être complété après la déclaration de politique générale. Ça a mis du temps, mais ça ne saurait tarder. Avant de parler des petits noms là qui sont en train de fuiter, on n'a pas encore la liste officielle, mais on a hier François Bayrou qui nous a dit bah, écoutez, moi, faute d'accord politique, en réalité, vous ne voulez pas me donner de place au gouvernement, donc je ne rentrerai pas au gouvernement faute d'accord politique. Qu'est-ce qui se passe depuis? Bah, c'est un petit peu la crise au Modem. Putain, qui l'eût cru que le Modem allait faire vivre un petit peu ce remaniement. On a d'un côté, on a eu un communiqué des députés Modem qui ont dit, bah, nous, on est toujours en soutien et en participation à la majorité d'Emmanuel Macron. De l'autre côté, il y a ceux qui regardent plus ou moins vers la gauche. On a aussi la présidente Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui a dit aux élus Modem, bah, écoutez, si vous voulez venir travailler avec nous, why not? Welcome. On a un visuel. Tiens, on me dit en régie. Merci, la régie. OK. Alors, est-ce que vous connaissez les personnes qui sont sur notre petit écran? Ça me régale. C'est exceptionnel.
Nous avons Nicole Belloubet.
Nicole Belloubet, ouais.
Nicole Belloubet, qui était ministre de la Justice et qui apparemment serait nommée à l'Éducation nationale. On perdrait donc Amélie Oudéa-Castéra à l'Éducation.
On la perd à moitié.
Voilà, donc elle resterait au sport olympique, paralympique. Non, au sport. Ah, pardon. Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Donc ça, c'est ta tasse de thé, ma chère Sacha.
Yes.
et donc, Nicole Belloubet, qui rejoindrait donc l'Éducation nationale. Il me semble qu'elle a été rectrice dans le passé, ce qui justifie peut-être cette nomination.
C'est l'ami Gasparian au logement.
Alors, au logement, bravo, exactement.
Ah oui.
Guillaume Gasparian, bien joué. Donc, il serait apparemment nommé au logement dans quelques minutes. On attend le communiqué officiel de l'Élysée. À la santé, est-ce que vous l'avez?
Non.
Ah non.
À la santé, on a Frédéric Valletoux, qui est d'Horizon. Horizon, le parti donc d'Edouard Philippe. Ancien sarkozyste Frédéric Valletoux, il a été notamment président de la fédération hospitalière, il me semble. Je crois que c'est ça. Donc voilà, donc il serait nommé à la santé, dans le pôle de Catherine Vautrin. Donc. Au sport, donc on a Amélie Oudéa-Castéra. Autonomie et handicap, est-ce que vous l'avez?
Non.
On a Fadila Khattabi, qui faisait partie du gouvernement, du dernier gouvernement d'Elisabeth Borne, et qui va être nommée apparemment donc ministre déléguée de l'autonomie et des personnes handicapées. On la connaît notamment parce qu'elle a été présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous avez aux Outre-mer?
Non plus.
Ok, vous ne l'avez pas. On a Marie Guévenoux, qui est apparemment une ancienne jupéiste, et qui donc remplacerait Philippe Vigier, qui était à son poste auparavant. On a des noms qui vont tomber incessamment sous peu. Je regarde mon téléphone, je vous écoute, les amis.
Ça veut dire que Belloubet, elle a pris la place de Bayrou. Donc,
non, Bayrou, on lui avait promis l'armée, les armées, non?
Alors, il voulait l'éducation
nationale.
Ouais, il voulait l'éducation
nationale. Donc, ça veut dire que quelque part dans la discussion, parce que bon, c'est quand même étonnant dans son communiqué, ça y est, tout d'un coup, il est plus d'accord avec la politique qu'il soutient depuis le tout début. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les négociations pour qu'on ait Belloubet et du coup, pas Bayrou et ce communiqué étrange de Bayrou? Enfin, s'ils avaient vraiment une pointure, quelqu'un qui venait apporter un nouveau souffle à l'éducation nationale et qui venait redonner un peu de sens au projet macroniste à l'éducnat. Mais là, on sort une ancienne ministre, c'est étonnant.
La pointure au Modem, c'était quand même Sarah El Haïry.
Sarah El Haïry, je le dis à l'instant, elle devient ministre déléguée en charge de l'enfance et de la famille.
Allez.
Allez le SNU. Ouais.
Très bien. On va les mettre au SNU dès la crèche, hein, on vous l'explique. Moi, j'ai un petit... On me dit aussi en régie qu'Olivia Grégoire est nommée au tourisme. voilà, bon, on prend. Et il y a aussi plein de ministres qui étaient au gouvernement et on les a appelés pour leur dire qu'ils ne seraient pas reconduits. Je note la ministre déléguée à la formation professionnelle, Carole Grandjean. Olivier Beck qui était au commerce extérieur, la secrétaire d'État chargée de l'Europe, Laurence Boone qui était avant conseillère Europe d'Emmanuel Macron à l'Élysée. On a la ministre de la Santé et de la Prévention, Agnès Firmin-Lebaudeau, qui aura fait donc un passage très express au ministère de la Santé. Est-ce que j'ai d'autres choses là qui tombent?
et qui avait été mise en cause sur plusieurs dossiers, ce qui explique peut-être l'exfiltration.
Ouais. Bon, on verra s'il y a d'autres noms qui tombent, les copains, on vous le dira. En attendant, on va passer à la suite de notre, émission.
Par contre, j'ai pas compris, mais Nicolas Sarkozy, il est ministre de quoi?
Alors, il est à Matignon, il est Premier ministre. C'est ça. Tu vois, la place, je l'ai donnée. Elle est à Matignon.
Tu casses, tu répares. Pardon.
Les amis, on en a parlé la semaine dernière, on continue d'en parler cette semaine. On va revenir sur la mobilisation des agriculteurs avec une crise. Est-ce qu'elle s'est terminée d'ailleurs? On va en parler. Retour en chronologie. Je refais mon petit fait entrer l'accusé. En octobre 2023, donc, on a eu un début de mobilisation avec des agriculteurs donc, qui retournaient les panneaux des villes en guise de contestation. On a vu ça notamment en Occitanie. Ensuite, ça a été un petit peu déployé dans toute la France. Le 18 janvier a commencé le blocage de l'autoroute Toulouse-Tarbes pendant plusieurs jours. Et ensuite, dans tout le sud-ouest, ça a commencé à s'embraser, c'est le cas de le dire. Et ça s'est étendu dans tout le pays. La Confédération paysanne a rejoint la mobilisation qui est à la base, le mouvement qui était à la base avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Le 25 janvier, la CGT a annoncé son soutien à ce mouvement et a appelé à créer donc des convergences. On a eu des appels à bloquer Paris du 25 au 28 janvier. Mais bon, on a pas vraiment vu de blocage, disons les choses très concrètement. Les 26 janvier et 1er février, on a eu différentes annonces de Gabriel Attal sur l'agriculture. Un premier déplacement donc sur le terrain ou au milieu de plein d'agriculteurs, il nous a fait une première partie d'annonce. Et ensuite, pendant sa déclaration de politique générale, et le 1er février, donc jour de cette déclaration de politique générale, le lendemain, il me semble, la FNSEA et les jeunes agriculteurs a appelé à lever les barrages, pardon. Ça après les annonces où il y avait notamment 150 millions d'euros qui étaient débloqués pour les éleveurs et la mise en pause du plan Ecophyto dont je parlais la semaine dernière qui vise à réduire les pesticides. On a également l'annulation de la taxe sur le gazole non routier, pardon. On a l'argent des amendes Egalim qui allait servir à soutenir les agriculteurs. Voilà, et plein d'autres choses encore. Les amis, c'est quoi ce mouvement? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce mouvement est terminé? Dites-moi tout.
Moi, honnêtement, ça m'insupporte pour deux raisons.
Sympa Antoine, ça fait plaisir.
Non, tout le battage qu'il y a autour de la question des agriculteurs. Le premier, c'est cette espèce de totem d'immunité qu'il y aurait autour des agriculteurs, et l'espèce de deux poids deux mesures qu'il y a en termes de mobilisation. C'est-à-dire que parce que les agriculteurs, ils nourrissent la population. Mais il y en a d'autres, ils chauffent la population. Il y en a d'autres, ils éduquent les enfants. Enfin, je sais pas pourquoi les agriculteurs devraient être traité de manière différente par rapport au reste de la population et par rapport au reste des groupes sociaux. Et ça, quand même, on l'a vu dans la façon dont la crise a été gérée, où globalement, le gouvernement a cédé à tout ce que demandait la FNSEA. C'est quand même assez particulier. La deuxième chose que j'aimerais rappeler, c'est que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement typique au cas de l'agriculture, c'est que la FNSEA fait la politique agricole française depuis 60 ans. C'est-à-dire qu'il y a une cogestion en termes de politique agricole entre les différents gouvernements et la FNSEA, qui ont été d'accord avec tout ce qui s'est fait en matière agricole, qui ont soutenu tout le modèle productiviste qui a été mis en place et qui justement fait qu'il y a des problématiques qui se posent à l'heure actuelle. C'est pour vous dire la proximité qu'il y a entre la FNSEA et le gouvernement, c'est qu'il y a un ancien président de la FNSEA qui a même été ministre à l'époque de Jacques Chirac. Donc finalement, toutes les problématiques qu'il y a dans le monde agricole, c'est lié à toutes les décisions qui ont été soutenues par la FNSEA, qui ont été voulues par la FNSEA, et qui font qu'on a un soutien au productivisme, au libéralisme, qui pose en effet problème à l'heure actuelle. Donc, en premier lieu, avoir un petit peu de retour sur ce qui a été souhaité par les syndicats agricoles et par le syndicat majoritaire, ça ferait pas de mal.
La FNSEA donc demande et le gouvernement dispose. Sacha, tu nous disais en préparant l'émission que tu trouvais que ce mouvement était quand même relativement jeune.
Oui, alors je ne sais pas si c'est mon biais médiatique, journalistico, tout ça qui a fait que, mais que ce soit dans les papiers réalisés, les reportages faits, les gens interviewés, je Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de soit de jeunes agriculteurs et agricultrices, soit des enfants d'eux, et qui du coup étaient confrontés à ce que leurs parents vivaient ou à ce qu'ils allaient vivre quand ils allaient reprendre l'exploitation familiale, ou ce qu'ils allaient vivre quand ils allaient tout simplement devenir agriculteur ou agricultrice. Et c'est je pense important que cette génération là prenne aussi le combat à son compte, parce que je pense que c'est elle qui finalement se mettra peut-être un peu au cul du gouvernement en lui disant vous avez pas respecté ça, vous avez pas respecté ça, enfin qui va un peu pousser pour que le mouvement dure. Bon, moi, je pense que c'est pas un mouvement qui s'est arrêté après les annonces de Gabriel Attal, pour le coup. Peut-être que la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui sont vachement liés, pour le coup, ont levé les barrages et ont dit « Ok, nous, on est d'accord et tout ». Je pense que sur le terrain, la réalité, elle est un peu différente, pour le coup. Oui. Et donc, voilà, c'est un mouvement agricole jeune. C'est sympa.
Claire, est-ce qu'on peut parler là après les annonces, notamment avec la mise en pause du plan Ecophyto,
ouais,
à cette opposition qu'on peut dire quasi traditionnelle entre les agriculteurs, l'agriculture et l'écologie?
En fait, je vais y venir. Je pense que c'est hyper important de pas en fait
les opposer.
Résumer ce mouvement des agriculteurs à opposition de la FNSEA. Il y a un décrochage réel entre les cadres de la FNSEA et le mouvement dans son ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'autres syndicats qui montent un peu en puissance. Bon, il y a la coordination rurale qui est réputée plus proche de l'extrême droite, mais il y a aussi la Confédération paysanne qui porte une toute autre vision de ce que l'agriculture française devrait être. Et surtout, en fait, la majorité des agriculteurs aujourd'hui, c'est des niveaux d'endettement incroyablement hauts. Ils peuvent se rémunérer très peu, en général, à part Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, qui est aussi président du groupe Avril, qui est une des grosses multinationales agro-industrielles. Et c'est un suicide d'agriculteurs tous les deux jours. Donc, en fait, les raisons de la colère, ils sont là. Oui, j'ai fait un jeu de mots inintentionnel sur un roman de Steinbeck. Voilà, je lis trop de livres. Et donc, en fait, effectivement, il y a une construction commune, une co-gestion, où on a modernisé, industrialisé, inséré l'agriculture française dans le marché européen et dans le marché global. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une multiplicité de contraintes qui tombent sur le dos des agriculteurs. Une contrainte à la compétitivité, à la productivité maximale, etc. Et maintenant, une contrainte supplémentaire qui se rajoute, c'est-à-dire que effectivement, il y a des réglementations environnementales où on leur demande de faire attention à l'usage des pesticides, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'on utilise l'écologie, les avancées écologiques, comme espèce de totem pour ne pas parler des raisons structurelles de pourquoi il y a une crise de l'agriculture. Du coup, on déguise comme une victoire des abandons écologiques sans résoudre rien des problèmes dont les agriculteurs parlent quand on va sur les barrages. C'est-à-dire, en fait, les prix, par exemple, une brique de lait aujourd'hui, un litre de lait, le producteur, il se rémunère qu'à 24 centimes dessus.
Oui.
Le reste, c'est les marges des industriels. Donc, en fait, cette espèce de totem vert, il vient masquer les problèmes plus structurels qui sont liés au système capitaliste global, à son organisation, à la manière dont l'Union européenne fait aussi des règles, des accords de libre-échange pour faire rentrer de plus en plus de parties de notre marché là-dedans. Donc, enfin, je veux dire, ces questions-là, on ne peut pas les évacuer en disant on va faire une pause dans le plan Ecophyto. Enfin, c'est vraiment... Et on perd sur tous les plans, parce qu'en fait, il n'y a pas d'opposition entre la dimension sociale et la dimension écologique. Je veux dire, les agriculteurs, ils se prennent leurs propres pesticides en plein dans la tête. Les taux de cancer sont hyper, hyper hauts. Et donc, la question, c'est comment on change le système agricole et le système économique dans son ensemble pour plus avoir cette espèce de compromis entre satisfaire les demandes des agriculteurs et avancer dans la transition écologique.
Mais je suis bien d'accord avec toi. Mais que globalement, c'est le modèle même de l'agriculture, française qu'il faudrait revoir, et ce modèle productiviste. Mais la question, c'est est-ce que les agriculteurs veulent eux-mêmes remettre en cause ce modèle-là? Parce que à part la Confédération paysanne, et je suis d'accord avec toi que les nouveaux agriculteurs qui vont s'installer sont plutôt proches de ce syndicat-là, là. Mais quand tu regardes la FNSEA et la coordination rurale, ils sont totalement pour le modèle productiviste. Et c'est là où tu as un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'ils soutiennent finalement des décisions qui, au final, amènent les problématiques qui se posent à eux derrière. Donc,
je peux répondre rapidement, on ne va pas trop
faire un débat.
Mais en fait, dans la question de qu'est-ce qu'ils veulent, il y a, quand on est agriculteur sur son, avec toutes ces contraintes-là, il y a la question de qu'est-ce qui nous paraît possible. Et le problème aujourd'hui, c'est que la transformation intégrale d'une exploitation, d'un modèle productiviste, industriel, à une ferme en agroécologie, il est impensable. Parce qu'il y a trop de contraintes et qu'il n'y a pas assez de soutien des autorités publiques, de l'État, en termes de pour sécuriser la transition. Donc, ils sont pas véhément pour le productivisme. Oui, les pesticides, on aime ça. C'est que je pense que du point de vue du nombre de contraintes qu'ils ont, ils voient pas un autre possible. Enfin, je veux dire, ils sont là dans la crise qu'on entend aussi, c'est qu'ils sont en quête de sens et de reconnaissance. Franchement, faire une, ils le savent qu'ils font aussi une alimentation qui est nocive pour la santé, etc. Ils sont pas, je pense que ça, ils en ont conscience. La question, c'est comment on rend ça possible pour eux de bouger d'un modèle à un autre. Et là, clairement, on n'a pas mis les moyens nécessaires. Et la crise qu'on vit là le montre amplement.
Je voulais, juste avant d'accueillir notre invité, rappeler que ce mouvement n'est pas que franco-français, mais qu'il est européen. On a vu aux Pays-Bas une mobilisation des agriculteurs là-bas suite à une loi qui visait à réduire les émissions d'azote à travers la réduction du cheptel. En Roumanie, en Pologne, les agriculteurs aussi qui s'indignent sur la concurrence déloyale des agriculteurs ukrainiens qui ne sont pas taxés et qui déstabilisent les marchés locaux. En Allemagne, on a aussi la question de la fin, dans quelques années, en 2026, d'un avantage fiscal sur le gasoil et sur la question des standards environnementaux de l'Union. Même chose, mobilisation en Italie et en Espagne, où il y a des tracteurs qui promettent de bloquer toutes les grandes villes. Un point commun à toutes ces mobilisations à travers l'Europe, c'est une meilleure rémunération et une suppression des normes environnementales. Mouvement européen aussi, parce que dans les annonces de Gabriel Attal, il a annoncé l'opposition de la France en Europe au traité de libre-échange avec le Mercosur notamment. Et pour parler de ces traités de libre-échange, quoi de mieux qu'un spécialiste, on accueille notre invité de la semaine, Maxime Combe. Maxime, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
On peut dire que vous êtes spécialiste de beaucoup de choses, mais de la question des accords de libre-échange notamment, vous que vous connaissez sur le bout des doigts. On va dédramatiser les choses tout de suite. Je n'y connais absolument rien, comme bon nombre de nos viewers, et c'est pour ça qu'on est content de vous accueillir. C'est un enjeu de cette mobilisation, on l'a dit. Il y a une opposition très claire des éleveurs contre ces accords de libre-échange avec le Mercosur. Avant tout, c'est quoi un accord de libre-échange ?
Un accord de libre-échange, c'est de considérer qu'on va finalement autoriser le commerce et l'échange.
Maxime, on va vous demander de monter un petit peu votre micro, voilà. Pour qu'on puisse bien vous entendre.
Un accord de libre-échange, c'est la décision que prend l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui négocie au nom des 27 États membres, c'est pas un coup de force, ce sont les 27 États membres de l'Union européenne qui ont confié cette responsabilité-là à la Commission européenne et aux institutions européennes. Et un accord de libre-échange, basiquement, c'est de dire, nous, on souhaiterait vous exporter avec un pays tiers des voitures, des produits chimiques, des produits industriels, et en retour, on est prêt à faciliter l'importation des produits que vous êtes en mesure d'exporter, et généralement, puisqu'on négocie avec des pays qui sont sensiblement différents en général, aux économies différentes, beaucoup de ces pays sont dans le sud, et beaucoup n'ont à exporter que des matières premières, qu'elles soient agricoles, minières ou énergétiques. Et juste pour préciser, en fait, ces accords sont en train de se développer très fortement depuis une vingtaine d'années parce que l'Organisation mondiale du commerce, qui est l'institution internationale qui était en charge de l'organisation et de la libéralisation des marchés à l'échelle internationale, c'est-à-dire d'accroître ce commerce international à l'échelle internationale, a été bloquée sur la question de l'agriculture. Il y a des pays du Sud qui ont dit qu'ils ne voulaient pas libéraliser totalement leurs marchés agricoles. Et c'est pour ça que cette question de la libéralisation des marchés agricoles prend une importance forte dans ces nouveaux accords de libre-échange bilatéraux ou régionaux. Donc, quand on dit bilatéraux, c'est l'Union européenne avec un pays tiers, le Canada, ou régionaux avec plusieurs pays tiers, comme le Mercosur. Et le Mercosur est un très gros accord de libre-échange. Et donc, du coup, on leur dit, nous, on est prêts, on souhaiterait vous exporter tel et tel produit. Et en retour, on est prêt un peu à sacrifier notre agriculture européenne Et donc importer des produits plus facilement de votre région.
Pour rappel, le Mercosur, quel groupement de pays ?
Le Mercosur, c'est principalement le Brésil et l'Argentine. Et après, okay. Il y a deux petits pays qui sont l'Uruguay et le Paraguay. Mais d'un point de vue agricole, le Brésil et l'Argentine sont aujourd'hui des puissances internationales très importantes, très gros exportateurs de produits agricoles, ce qu'ils n'étaient pas au début des négociations. Les négociations avec les pays du Mercosur, elles ont commencé en 99, au siècle dernier. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas nés. La Commission européenne a toujours le même mandat de négociation. C'est-à-dire que les 27 États membres lui ont donné un mandat de négocier en 1999. Ce mandat de négociation ne parle pas de réchauffement climatique, ne parle pas de biodiversité, ne parle pas de déforestation, ne parle pas de lutte contre les inégalités, ne parle pas d'équilibre géopolitique. Et c'est sur la base de ce mandat-là que la Commission continue à négocier aujourd'hui.
Ok. Qu'est-ce que ça change concrètement sur les échanges des produits, sur la manière de s'échanger des produits ? Qu'est-ce serait la différence s'il n'y avait pas ces accords-là ?
Concrètement, aujourd'hui...
Très
concrètement, les produits agricoles d'Amérique du Sud ils sont taxés à l'entrée à la frontière européenne. Il y a des quotas maximum qu'ils ne peuvent pas dépasser en général. Et les droits de douane sont tellement élevés que ça les rend peu compétitifs. Là, l'idée, c'est d'augmenter ces droits d'importation sans droits de douane et ça va les rendre compétitifs, notamment des produits tels que de la viande de bœuf, de la viande de volaille, tels que de l'éthanol, du sucre. Autant de produits qui vont venir concurrencer, alors pas pour l'éthanol parce que la production n'est pas du même niveau en Europe, mais qui vont venir concurrencer la production de bœuf, la production de sucre ou de volaille sur le territoire européen. Et d'ailleurs, vous l'aurez noté, le mouvement agricole a commencé dans le sud-ouest en France, une zone typiquement faite de production en général de polyculture, mais souvent tournée vers l'élevage, et qui est très fortement impactée par l'accumulation de tous ces accords. C'est-à-dire que là, on parle de l'accord UE-Mercosur, mais depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, on a eu des accords avec le Vietnam, le Japon, la Corée du Sud, et je vais en oublier plein, le Canada. Et donc, c'est l'accumulation de l'ensemble de ces accords qui, à un moment donné, ont un rôle important du point de vue agricole, puisque les quotas d'importation augmentent. Et par exemple, si on va jusqu'au bout, on va importer plus que la moitié de ce qu'on est capable de produire en Europe du point de vue de la production de bœuf. Donc du coup, c'est une concurrence très importante qui va apparaître sur le territoire européen. Et c'est là que la question de la concurrence déloyale, notamment le fait qu'il y ait des conditions sociales de production en Europe et notamment en France qui sont plus élevées que dans ces pays-là, il y a un SMIC, par exemple, sur le territoire national, eh bien, il n'y en a pas. Dans ces pays du Sud, où il n'y en a pas dans d'autres pays européens. Et donc ça génère une concurrence déloyale. Et quand dans le même temps, effectivement, on a une exigence vers le monde agricole de monter en gamme, d'essayer de faire attention avec l'usage des phytosanitaires, d'avoir des meilleurs produits ou des produits moins impactants sur la planète, en fait, vous exercez une double pression avec ces accords de libre-échange, une pression sur les prix, c'est-à-dire que vous demandez en fait à nos agriculteurs de pouvoir être compétitifs avec des prix de produits qui vont arriver moins chers. Et en même temps, une pression à la baisse sur les normes, puisque nécessairement, ces normes peuvent renchérir le coût de production. Et donc, du coup, vous avez ce double phénomène qui rentre en ligne de compte, et donc des producteurs qui se sentent effectivement maltraités par la politique agricole européenne. Et leur principal mot d'ordre, c'est de dire, mais en fait, on est une variable d'ajustement. Ce qui vous importe, vous, au niveau européen, vous, l'industrie européenne, l'économie européenne, c'est d'exporter des voitures thermiques qui vont bientôt être interdites à la vente sur le territoire européen. Vous voulez les exporter sur de nouveaux marchés comme le Brésil et l'Argentine. Et finalement, vous dites, OK, on va sacrifier un peu de production de bœuf sur le territoire européen. Et la même chose a été faite avec l'accord avec la Nouvelle-Zélande, avec les producteurs d'agneaux et d'autres accords. On peut en faire la liste si vous le souhaitez.
Pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, on parle de la mobilisation des agriculteurs et là, spécifiquement, des questions des traités, des accords de libre-échange. Et on accueille donc Maxime Comte, qui est économiste à l'ETEC, pour y voir plus clair. Est-ce que la FNSEA s'est toujours opposée à ces accords-là ?
Ah non, la FNSEA est toujours plutôt favorable aux accords de libre-échange. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est de quelle FNSEA on parle.
Ah.
Il y a des divisions au sein de la FNSEA, au sein de la société française. Vous avez au sein de la FNSEA, en fait, un monde agricole qui s'est fortement modernisé, tourné vers les marchés extérieurs, internationalisé, qui est extrêmement compétitif sur les marchés internationaux et qui cherche à exporter. Ce sont, par exemple, les grands céréaliers des grandes plaines productives du nord de la France, du bassin parisien, d'où est issu, par ailleurs, le président de la FNSEA. L'agro-industrie exportatrice qui va avec. Mais c'est également les producteurs de vin, de spiritueux. Et vous aurez entendu peut-être le ministère de l'Agriculture récemment dire « Mais c'est très important, les accords de libre-échange, parce qu'on va continuer à vendre du cognac à l'autre bout de la planète.
Ah » bah,
et parce qu'on vend du cognac à l'autre bout de la planète, il faudrait donc du coup accepter la concurrence sur le bœuf ou la concurrence sur d'autres productions qui, elles, sont beaucoup plus liées finalement à notre propre souveraineté alimentaire. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Et donc, dans la FNSEA, vous avez ce tiraillement. Et globalement, y compris si vous regardez les propositions que la FNSEA a faites au gouvernement pendant la crise, ils parlent des accords de libre-échange. Mais ils n'en parlent pas au début en disant « notre grand problème, c'est les accords de libre-échange ». Ça, c'est la Confédération paysanne qui le fait. Okay. Du côté de la FNSEA, ils parlent des accords de libre-échange uniquement dans le chapitre de leur proposition qui touche à la production de viande parce que, en fait, ils souhaiteraient, dans l'idéal, ce qui devient vite compliqué, ne pas être soumis à la concurrence internationale sur la production de viande, sur la production de bœuf, mais pouvoir continuer à exporter céréales, vins et spiritueux aux quatre coins de la planète. Donc du coup, avoir le beurre, l'argent du beurre et ce que vous
la
voulez.
La crémière, tout ce qui va avec. En quoi c'était un enjeu là, de cette mobilisation, les accords de libre-échange? Et c'est quoi l'impact sur tous ces accords sur l'agriculture française et surtout au niveau européen?
Bah, si vous reprenez, je crois que ça a été dit qu'un des principaux moteurs de cette mobilisation est lié à l'exigence que peut avoir un producteur agricole d'être rémunéré pour ce qu'il produit, plutôt que d'être soumis à une concurrence internationale sur laquelle il ne peut pas s'aligner et être sauvé tous les six matins par de nouvelles aides. En gros, il y a cette exigence d'un prix rémunérateur. Cette exigence de prix rémunérateur, elle nécessite notamment des régulations publiques, soit au niveau national, soit au niveau européen, qui permettent de donner de la stabilité et de la prévisibilité sur ces prix. Quand vous générez une concurrence internationale, quand vous ouvrez des marchés, ben en fait, vous confiez cette gestion de court, moyen et long terme aux marchés internationaux qui peuvent être fluctuants à cause d'une guerre en Ukraine, à cause des soubresauts de l'économie mondiale. Et donc, du coup, vous n'avez pas de stabilité. Donc, une année, vous pouvez gagner beaucoup. Ça, les céréaliers le font bien. Et en général, vous avez une pression à la baisse, notamment sur des productions vivrières, sur les productions qui nous nourrissent au quotidien, que peuvent être, donc, du coup, la viande, l'arboriculture, le maraîchage, qui sont, elles, en général, ils n'ont pas trop d'années fastes avec la concurrence internationale. C'est toujours une pression à la baisse sur leur prix et leur rémunération. Et donc, du coup, cette exigence-là et cette exigence de politique publique pour donner de la stabilité dans les prix, eh bien, ça va passer par des mécanismes qu'on appelle de régulation de marché qui nécessitent éventuellement qu'au niveau public, on constitue des stocks quand il y a trop de matières premières sur le marché. C'est ce qu'on faisait dans les années 60, 70, 80. Trop de production de beurre, pas de problème. On en retire du marché, les prix sont stabilisés, vous avez globalement un prix garanti sur les prochaines années. Avec la libéralisation des marchés, avec tous ces accords qu'on a accumulés au cours du temps, en fait, ces politiques-là d'intervention et de régulation des marchés sont impossibles. Et ça, ça laisse penser finalement qu'on considère que l'agriculture, que les produits agricoles sont des produits comme les autres, qu'il n'y a pas de différence notable entre un téléphone et votre kilo de fruits et légumes dont vous avez besoin pour vous nourrir dans la semaine. Il y a une autre approche qui considère de dire non, on a un vrai enjeu de pouvoir garantir à la fois l'approvisionnement des marchés et que tout le monde puisse avoir à manger, qu'on puisse garantir une bonne rémunération des producteurs, parce que s'ils disparaissent dans une situation où éventuellement c'est une crise mondiale, et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, il y a des tensions sur les marchés internationaux et il peut y avoir des difficultés à approvisionner les marchés. Et donc du coup de considérer que l'agriculture est un bien trop précieux, la production agricole est un bien trop précieux pour être confiée au marché et qu'il faut donc du coup la sortir de cette libéralisation des marchés au niveau international.
Claire, une question ?
Ouais, est-ce qu'il y a une spécificité européenne sur ce point-là, et notamment européenne depuis le tournant vraiment néolibéral qu'a pris la PAC dans les années 1990? Parce que par exemple, si on prend les États-Unis, le secteur agricole, justement, il est très protégé, il y a plus d'intervention de l'État, des autorités publiques. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a que l'Europe qui est encore dans cette vision de l'agriculture comme quelque chose qui peut se déployer comme tout autre produit à l'échelle internationale?
En fait, pas vraiment. Toutes les agricultures compétitives au niveau international, de tous les grands pays exportateurs, sont extrêmement favorables à des politiques de libéralisation et des accords de libre-échange de cette nature-là. Donc c'est le cas également pour l'agriculture productiviste américaine. Elle est très heureuse de vendre du maïs, du soja aux quatre coins de la planète. Par exemple, Il y a eu un accord de libre-échange nord-américain entre le Mexique, le Canada et les États-Unis dans les années 90. Le Mexique, d'où est originaire le maïs, aujourd'hui est devenu importateur net de maïs venant des États-Unis à cause de cet accord-là. Donc du coup, ce que fait la Commission européenne, c'est ce raisonnement-là. C'est de dire, dans les 20-30 prochaines années, l'essentiel de la croissance économique va avoir lieu dans les pays du Sud, hors de l'Union européenne. Il faut que j'en capte une partie. Pour en capter une partie, je vais ouvrir des nouveaux marchés à mes multinationales européennes qui vont capter des marchés et donc qui vont aller vendre leurs produits financiers, leurs produits des services, les grandes multinationales françaises, toutes les, celles qui fournissent dans les déchets, dans l'énergie, dans l'eau, et tout ça, sont très enclines à avoir ces nouveaux marchés. Et en captant une partie de cette croissance, je vais assurer la prospérité en Europe. Ça, c'est très discutable sur le plan économique, mais c'est ça la doxa européenne. Et la deuxième élément, c'est de dire qu'il nous faut des accords de libre-échange parce qu'il faut mettre la main, dans une perspective, de mon point de vue, qui est assez néocoloniale, sur les matières premières nécessaires au verdissement de l'économie européenne et à l'électrification de l'économie européenne. Et donc, du coup, le Mercosur, l'accord avec le Chili et un certain nombre d'autres accords, c'est aussi des accords principalement pour mettre la main sur le lithium, pour mettre la main sur du cuivre, pour mettre la main sur toutes ces matières premières dont on a effectivement besoin. Et ça se fait dans une perspective de relations très inégalitaires où globalement, on va s'accaparer les matières premières et empêcher ces pays-là, pour reprendre un terme un peu ancien, d'industrialiser l'extraction des ressources naturelles, c'est-à-dire de créer de la plus-value sur place avec de l'industrie qui utiliserait ces matières premières. Et donc, c'est ça que l'Union européenne fait. Et l'Union européenne, pour négocier ces accords de libre-échange avec les quatre avec tous les pays de la planète, elle met sur la table le fait qu'elle est prête à ouvrir ses marchés agricoles. Et donc, du coup, ces pays sont, en tout cas ces pays, les branches agricoles productivistes de ces pays sont très enclines à exporter plus vers l'Union européenne. Et ce faisant, et donc là, on a une question plus politique qui rentre en ligne de compte, on est en train d'allonger nos chaînes d'approvisionnement alimentaire. On est en train, donc, du coup, de créer une dépendance aux marchés internationaux pour subvenir à nos besoins. Il faut savoir que les importations de produits alimentaires en France et en Europe, je ne sais plus si c'est la France ou l'Europe, en 20 ans, ont fait x2. Aujourd'hui, c'est un cinquième de l'ensemble de nos produits alimentaires qui dépendent d'approvisionnement extérieur et pour des produits dont on n'a pas nécessairement besoin. De Nouvelle-Zélande, on va importer de l'agneau, du bœuf, du lait, du fromage, des kiwis et des pommes. À ma connaissance, on sait produire tous ces produits sur le territoire européen. Et par exemple, sur les productions de viande, les importations, elles ont fait x4 en 20 ans. Et elles vont faire encore beaucoup plus dans les années à venir si on finalise l'ensemble des accords. Et donc, du coup, ceci peut expliquer également pourquoi la mobilisation est née d'une région qui est principalement une région d'élevage, parce qu'elle est directement impactée par cette mise en concurrence internationale. Et la Commission européenne, quand on l'interroge là-dessus, elle nous dit oui, bon, d'accord, effectivement, il va y avoir des effets. Effectivement, il y a quelques producteurs d'agneaux supplémentaires qui vont disparaître en France et en Europe. Mais globalement, c'est le prix à payer. Quand on fait la somme économique de cela, on se rend compte qu'on va plus y gagner à travers nos voitures que nous allons exporter, nos services financiers et tout cela. Le monde agricole dit, est-ce qu'on veut être la variable d'ajustement?
On a une question du chat avant d'avoir une question de Sacha. On me dit, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, a complètement retourné l'idée de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que vous en dites?
La souveraineté alimentaire, c'est un concept assez intéressant parce qu'il a été forgé par finalement une alliance internationale de tout petits syndicats paysans qui s'appelle l'Avia Campesina. Alors, je dis tout petit parce qu'en France, la Confédération Paysanne, ce n'est pas un gros syndicat. C'est un syndicat qui existe et tout ça, mais ce n'est pas le syndicat majoritaire, comme vous l'avez exprimé. Mais l'Avia Campesina, c'est aussi le mouvement des sans-terres au Brésil. C'est plusieurs dizaines de millions de personnes. Enfin, c'est des syndicats qui peuvent peser beaucoup en Inde également, dans d'autres pays, et qui ont forgé ce concept qui utilise le terme de souveraineté, mais qui ne réduit pas la question de la souveraineté à la frontière nationale. L'idée, c'est qu'on peut parler de souveraineté alimentaire à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de plusieurs pays. Et c'est l'idée de considérer que, finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir se garantir dans le temps qu'effectivement, il n'y aura pas de rupture d'approvisionnement en termes de produits alimentaires, que ceux qui vont produire seront rémunérés à leur juste valeur et ne seront pas insérés dans un marché compétitif international dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissements, et que, à côté de ça, les consommateurs auront accès à une nourriture durable, accessible, et à des prix avec lesquels ils pourront voilà. C'est ça le concept de souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, on a un peu une transformation. Il a été repris. Ce que font beaucoup les institutions depuis très longtemps. On l'a fait ça avec le développement durable. On a fait ça avec l'économie verte. Là, ils le font avec la souveraineté alimentaire. C'est de prendre le concept, d'en vider de la substance et de dire ce qui est important dans la souveraineté nationale. Souveraineté alimentaire, c'est pas nécessairement alimentaire, c'est souveraineté, c'est la frontière, et c'est de laisser penser que on va faire des petites choses à la frontière, mais c'est pas cela dont il s'agit fondamentalement.
Alors c'est une question très bête et très méchante.
Il n'y a pas de question bête ou méchante, Sacha.
Du coup, la solution, c'est une dose de protectionnisme sur l'agriculture, par exemple.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir au cinéma le dernier film de Gilles Perret. Qui vient de la ferme des Bertrands, qui est au cinéma actuellement et que je vous recommande vivement, et qui dresse le panorama d'une ferme en Haute-Savoie sur plusieurs générations. Et cette ferme, bien que la situation est difficile et qu'ils travaillent beaucoup, elle continue à vivre. Et ils produisent du lait. Ils produisent du lait qu'ils vendent deux fois plus cher que le lait qu'on produit aujourd'hui dans les plaines françaises quand on le vend à Lactalis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une AOP. Une appellation d'origine protégée, qui est le reblochon. Et parce qu'il y a le reblochon, ils vendent leur lait plus cher. Et le reblochon, c'est quoi ? C'est quoi une AOP ? C'est un ensemble de normes, c'est un ensemble de règles qui, en fait, protègent à l'échelle d'un territoire une production agricole. Et ça, c'est une partie de la réponse à apporter. Et dans ce cadre-là, on ne va pas importer du reblochon venant de l'autre bout de la planète. Ou en tout cas, pas sous ce nom-là. Et donc, du coup, oui, on a besoin de protection. Et ces protections-là, elles ne sont pas nécessairement uniquement à la frontière, elles ne sont pas uniquement à la frontière européenne, elles peuvent être également, donc du coup, comme dans ce cas-là, à l'échelle d'un territoire. Et c'est l'idée que l'agriculture, que le monde agricole, que ce que produisent les agriculteurs est un bien trop important pour être laissé à la libre régulation des seuls marchés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché, ça ne veut pas dire que les producteurs ne vendent pas sur des marchés. Quand je parle là des marchés internationaux, c'est tout autre chose que le marché sur lequel vous allez acheter vos produits. Les marchés internationaux, ce ne sont même plus les producteurs qui vendent. Ce sont éventuellement des grandes firmes de l'agrobusiness, ce sont même également uniquement des traders qui vont acheter du blé pour revendre du blé un mois plus tard et qui vont en fait faire à la fois de la spéculation et de la non-spéculation, peu importe, c'est pas nécessairement le débat aujourd'hui. Mais donc du coup, en fait, on est en train de déconnecter complètement les instruments de régulation ou de dérégulation que sont les marchés de la réalité physique et locale, territorialisée de la production agricole.
Dernière question, Maxime Combe, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on pourrait se diriger vers un abandon de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, comme le demande aujourd'hui le gouvernement français ?
Alors, c'est marrant, on a eu un sketch toute la semaine dernière, c'est incroyable.
Ouais. Dites-nous là, parce qu'on a eu la déclaration de politique générale de Gabriel Attal.
Lundi soir dernier, l'Élysée annonce à un journaliste de Politico, un de vos confrères, c'est bon, on a obtenu l'arrêt des négociations. Ah. Le lendemain, porte-parole de la Commission devant toute la presse à Bruxelles, non. Nous allons continuer à négocier l'accord. Emmanuel Macron, jeudi dernier, depuis Bruxelles, nous avons obtenu l'arrêt de l'accord UE-Mercosur. Gabriel Attal, qui le répète également. Hier midi, porte-parole de la Commission européenne, devant la presse européenne. Bien entendu, les conditions ne sont pas réunies. Ils ne sont pas complètement fous. Bien entendu, les conditions ne sont pas réunies pour finaliser l'accord. Mais nous allons continuer les négociations d'un point de vue technique et tout cela. Et pourquoi la Commission européenne continue ses négociations ? Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un coup de force de la Commission européenne. La Commission européenne, elle a mandat des 27 États membres. Elle a mandat d'Emmanuel Macron. Elle a mandat des 27 États de l'Union européenne pour négocier. Et la Commission européenne, c'est une administration. Alors, elle a ses propres inerties. On peut la critiquer par bien des aspects. Et j'ai aucun problème avec cela. Mais de ce point de vue-là, en fait, elle fait le job qu'on lui a demandé, elle va au bout de la négociation d'un accord avec le Mercosur. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a un certain nombre à dire, Emmanuel Macron, Gabriel Attal, si vous êtes vraiment pour arrêter cette négociation-là, eh bien, exigez que soit réexaminé le mandat avec lequel négocie la Commission européenne aujourd'hui, ou exigez que ce mandat-là soit retiré à la Commission européenne. Et on pourrait très bien, effectivement, réexaminer ce que pourrait être une négociation géopolitique avec les pays d'Amérique latine, les pays du Mercosur, parce qu'effectivement, il faut que nous trouvions des moyens de lutter contre la déforestation en Amazonie ensemble, il faut que nous trouvions des moyens de lutter contre le réchauffement climatique, de protéger la biodiversité, et éventuellement, effectivement, de se mettre d'accord sur des échanges commerciaux, parce que nous allons continuer à importer du sucre de canne venant du Brésil. Il n'est pas question de le produire en Europe. Donc, il y a plein de choses à faire. Mais la libéralisation, tout azimut des marchés aujourd'hui, ça ne va pas. Et y compris parce que ça va détruire toute une série de secteurs productifs au Brésil, en Argentine et dans d'autres pays également. C'est-à-dire que les conséquences, elles ne sont pas uniquement pour les productions et l'économie ou l'agriculture européenne. Je vais vous prendre un seul exemple. Vous savez d'où vient la pomme de terre ? La pomme de terre, elle vient de la cordillère des Andes, la Colombie notamment. La Colombie, elle a un accord de libre-échange avec plein de pays, notamment l'Union européenne. Aujourd'hui, la Colombie doit importer des pommes de terre venant d'Europe. C'est pas sérieux.
C'est pas sérieux.
Le Sénégal était autonome en production de volailles. À partir du moment où on a décidé que finalement en Europe, on allait manger plus que les blancs et les cuisses, eh bien on leur vend tous leurs bas morceaux. Ils sont plus autonomes en production de volailles et quasiment leur production a été réduite à portions congrues. C'est pas sérieux. Laissons au Sénégal, laissons à tous ces pays de construire une véritable souveraineté alimentaire. Et c'est de cela dont il est question aujourd'hui et c'est de cela, vers cela dont il faudrait aller. Un dernier mot. C'est un peu étrange que la réponse qui soit apportée par ce gouvernement et par l'Union européenne à la question « nous sommes aujourd'hui impactés par la mise en concurrence internationale et par la pression à la baisse sur les prix et les normes par ces marchés internationaux », ça c'est ce que disent les agriculteurs, et la réponse du gouvernement c'est de dire « ok, accord UE-Mercosur, on n'en veut pas ». Mais l'accord UE-Mercosur, il n'est pas ratifié, il n'est pas signé, il n'est pas en vigueur. Donc en fait, c'est l'ensemble des autres accords précédent qu'il faudrait aujourd'hui réexaminer à l'aune de ces grands objectifs que nous avons au XXIe siècle, le réchauffement climatique, la souveraineté alimentaire et tant d'autres. Et donc c'est de cela dont il faudrait aujourd'hui débattre, c'est comment on fait pour stopper la logique infernale qui s'accentue et comment on fait pour revenir sur un système qui manifestement génère des problèmes à la fois dans les pays du Sud et également chez nous. Et donc du coup c'est un système qui favorise l'agribusiness mais qui fait du mal à tous les petits en général. Et ces petits producteurs agricoles, ils sont en France, ils sont en Europe, mais ils sont également et très fortement dans les pays du Sud. Et ceci n'est pas sans lien avec l'exode rural dans les pays du Sud. Et ceci n'est pas sans lien également avec les besoins migratoires d'une partie de ces populations-là qui ne trouvent plus d'activité rémunératrice dans ces pays. Donc du coup, tout cela est un petit peu lié. Donc arrêtons de jouer avec le feu, remettons ça sur la table, renégocions, réapprenons à construire ce que pourrait être un monde agricole fait de souveraineté alimentaire aux différentes échelles, aux quatre coins de la planète, et que ce soit rendu possible.
C'était un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Maxime Conque. On peut applaudir. Merci. Je vous laisse le plateau. Merci beaucoup. On en sait davantage maintenant sur ces accords de libre-échange. Les amis, comme dans un multiplex de foot, point modem. Ok. Alors, déclaration de François Bayrou qui nous dit que le modem reste dans la majorité. Il va assurer ce rôle de vigie, selon lui, pour que les engagements pris devant les Français en 2017 et réaffirmés en 2022 soient tenus et pour que la majorité reste la majorité. Merci beaucoup, François Bayrou. On a Richard Ramos, aussi député Modem, qui nous dit « On a aujourd'hui un gouvernement de droite et parisien. Il n'y a pas un ministre qui représente les vrais gens. » Voilà, apparemment colère, hein, Roland Ramos. Et on a surtout des officialisations. Le gouvernement est complet, les amis, ça y est. Hervé Berville est maintenu au gouvernement. Il était secrétaire d'État à la mer et à la mer. Et il est maintenant promu ministre délégué à la mer et à la biodiversité. On a Patrice Vergrit qui était au PS avant, qui est ministre des délégués chargés des transports maintenant. Voilà, après Clément Beaune, c'est donc lui qui va recevoir mes messages sur le métro, les Transiliens et RER. Sarah El Haïry, on en parlait, qui devient donc ministre délégué chargé de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Tu l'as dit tout à l'heure, Sacha. Stanislas Guérini, qui est maintenu à la tête de son ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Jean-Noël Barrot, membre du Modem, qui était ministre délégué à la Souveraineté industrielle et au numérique, est nommé ministre délégué chargé de l'Europe. Dominique Faure, qui conserve son poste de ministre délégué chargé des collectivités territoriales et de la ruralité. Olivia Grégoire, on l'a dit, est maintenant ministre délégué chargé des entreprises, du tourisme et de la consommation. Sabrina Agresti-Roubache, qui était secrétaire d'État à la ville et à la citoyenneté, est promue ministre déléguée à la ville et à la citoyenneté. Et surtout, parce que je sais que vous attendiez tous cette nouvelle, Roland Lescure reste ministre délégué chargé de l'industrie et maintenant de l'énergie. Il a récupéré l'énergie dans son portefeuille. Voilà, la malédiction Baxit est passée par beaucoup, mais Roland Lescure a résisté à cette malédiction.
Pas Clément Beaune.
Oui, ouais, pas Clément Beaune. Des réactions, les amis ?
C'est un beau gouvernement de droite. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est la suite logique de la première étape du remaniement. Mais oui, non.
Je vois que ça te laisse sans voix. Sacha, Antoine
pas d'étonnement particulier sur rien du tout.
Alors, il y a eu un effet waouh avec Gabriel Attal, Premier ministre, et Rachida Dati, ministre de la Culture. Là, bon, voilà quoi.
Non,
effet waouh, effet waouh.
Effet waouh, ouais.
Limité quand même.
En comédia dell'arte, en waouh.
Non, juste, il y a des gens qui pensaient probablement que Amélie Oudéa-Castéra perdrait tous ses mandats.
Non.
Y compris, je suis de ministre des Sports. On est à 6 mois des Jeux Olympiques. Ce serait pas sérieux, je pense, de changer de ministre à ce moment-là, pour le coup. Donc,
je sais pas si le sérieux est vraiment critère majoritaire les choix.
En fait,
c'est
une question de représentation à l'international. C'est-à-dire que les Jeux commencent dans 5 mois, le 26 juillet. Changer de ministre des Sports aussi peu avant l'échéance, pardon, je pense qu'on passerait pour des pitres, vraiment.
Mais
ce n'est pas déjà le cas.
Oui.
Il y a quand même un point qui me frappe, c'est que normalement, quand on change de Premier ministre et quand on change de ministre, c'est qu'il doit y avoir un changement en termes de politique. Mm-hmm. Et là, on se retrouve juste à commenter des castings de personnes, ouais. Le casting des anciens de l'UMP, en gros. Mais globalement, il n'y a aucune inflexion en termes de politique.
Ouais,
qu'on a l'impression que Macron s'est réveillé un matin en se disant « Bon, là, aujourd'hui, il faut changer de tête parce que c'est l'âme qu'on ne vienne plus. » Mais qu'il n'y a pas de modification de la politique qui derrière, donc c'est vraiment...
Après, c'est pas le Premier ministre qui fait la politique depuis 7-8 ans.
Non. mais voilà, mais oui, mais je suis bien d'accord avec toi, mais du coup, on est juste en train de commenter des castings de personnes qui vont mettre en place ce que veut Macron. Donc.
Et des retours de Belloubet, de waouh, c'est ça. En fait, l'événement, d'ailleurs, c'est Nicole Belloubet. Tu disais tout à l'heure sur...
Événement, bon...
Oui, voilà. Hein. Écoute, j'anime pour la première fois cette émission, j'essaye de créer un petit peu de sens... Voilà, vous m'avez compris. Tu disais tout à l'heure Amélie Oudéa-Castéra qui n'est pas débarquée du gouvernement. On a appris dans les indiscrétions qu'apparemment Gabriel Attal n'y tenait pas forcément au fait de garder Amélie Oudéa-Castéra, mais que Emmanuel Macron l'a défendue bec et ongle jusqu'au bout et finalement elle reste.
Ils ont des liens proches en plus de liens politiques de manière générale. Donc comment c'est qu'Emmanuel Macron aime bien mettre ses potes et garder ses potes
et
pas
puis,
loin
pardon,
de lui
enfin, je pense que ça aurait été trop visible, trop gros si elle était si elle avait été débarquée. Je pense que là ils ont trouvé un espèce d'entre-deux parce que c'est intenable. Il commençait à y avoir grève sur grève à l'éducation nationale et puis c'était incroyable cette séquence Oudéa-Castéra quand même en termes de révélation justement de tous ces liens qu'il y a entre cette élite politique très parisienne, ça a été dit, mais
6e arrondissement.
Mais tu disais qu'il n'y avait pas d'inflexion, pas de transformation. On a quand même la validation avec le gouvernement Attal, le style Attal, dans son discours de politique générale, d'une claire inflexion sur des thèmes autoritaires, disciplinaires, très, très
tu casturerais pas.
Je crois que Belloubet est contre le port de l'uniforme, pour le coup.
Ça va être intéressant, du coup, ça
a l'air d'être déjà en bonne voie.
Waouh.
Je sais pas si c'était non, mais... dans le deal qu'elle elle lèverait pas la voix sur l'uniforme.
Les amis, on aura le temps d'en parler dans les prochaines émissions, lors des prochains mois, prochaines semaines. Je pense qu'Amélie Oudéa-Castéra va peut-être nous en réserver d'autres d'ici là. Les épisodes AOC ne sont pas terminés tout de suite.